Lao Tzu et le monde. Redécouvrir le Tao Te Ching avec Tu Qingkang.
Dao ke dao, fei chang dao. Ming ke ming, fei chang ming. Wu ming, tian di zhi shi.
Dao ke dao, fei chang dao. Ming ke ming, fei chang
tian di zhi shi.
Tian di zhi shi.
Gan ming
zhi wu zhi shi.
Épisode 4, Henri Michaux, le taoïste de France. Nous continuons notre visite dans le monde de Lao Tzu, une visite guidée par le professeur Du Qingkang pour mieux comprendre le Tao Te Ching. Mais aujourd'hui, nous allons appréhender ce livre à travers un miroir qui reflèterait des choses intéressantes sur la pensée chinoise. Ce miroir, c'est Henri Michaux, le poète français qui, à vos yeux, est un adepte de Lao Tzu.
Né à Namur en 1899, mort en 1984, Henri Michaux est un poète français qui a originalement marqué la littérature mondiale. On partage une remarque. Une de ses originalités provient de la sagesse de vacuité propre au taoïsme. Enfant, il se passionne pour l'écriture chinoise. Adulte, il cherche à se détacher de sa culture germanique. Comme matelot, il voyage partout dans le monde sans pourtant pouvoir trouver un endroit qui corresponde à l'aspiration de son âme. À Paris, il lit attentivement Tao Te Ching à Ruisbrook, dévore les chants de Maldoror de Lautréamont. Dans une lettre, le poète original confie à Pollan. Je suis heureux d'avoir lu et relu Lao Tzu pour trouver ici l'occasion de ne pas devenir enragé.
Donc c'est le livre de Lao Tzu qui l'a aidé à se maîtriser, à se calmer. Henri Michaux est arrivé en Chine en 1933, où il a voyagé pour 3 ou 4 mois, du sud au nord jusqu'à la capitale Beijing. Ce voyage lui a permis d'observer de tout près le pays, le peuple, sa façon de vivre et sa culture, et de s'immerger dans le Tao, la sagesse de la Chine.
Oui, vous avez bien dit. En 1931, le poète fait enfin son voyage. Après l'Inde, il arrive en Chine. Enchanté et émerveillé, il regarde, douche, écoute, réfléchit, étudie, note, souriant sans cesse, comme sur une terrasse promise, enfin retrouvée. Le poète déclare joyeusement:
quand je vis l'Inde, quand je vis la Chine pour la première, des peuples sur cette terre me parurent d'être réels. Je pris la plume.
Et il écrit Un barbare en Asie qui sera publié 2 ans plus tard. Le voyageur est surtout fasciné par la sagesse de vacuité qu'il intitule Un autre vide. Le bienfaiteur, le vide occidental, le tordure. L'angoisse, elle le terrifie. Au cours de son séjour en Chine, il s'attache le plus souvent au côté yin des paysages et des choses. Il note.
Le chinois a l'âme concave. La lune lui plaît à laquelle la femme chinoise ressemble étonnamment. Beaucoup sont sous le signe de la lune. Cette clarté discrète, ce contour précis lui parle en frère. Ils ne font aucun cas du soleil.
À ses yeux, la peinture chinoise se distingue par l'absence.
Les objets sont tracés, ils semblent des souvenirs. C'est eux et pourtant ils sont absents, comme des fantômes délicats qu'un désir n'a pas appelés.
Exemplaire est le théâtre chinois qui est fait du désir de sentir l'absence, il remarque.
Le chinois aime surtout les horizons lointains, ce à quoi on ne peut pas toucher.
Dans le Tao, Michaud découvre une relation particulière faite de présence dans l'absence et d'absence dans la présence.
La présence dans l'absence, l'absence dans la présence, rien n'est absolu car l'absolu est la mort. Henri Michaux a touché la quintessence de la pensée chinoise dans les arts. Il a découvert la peinture, la calligraphie et le théâtre. On dit qu'il est devenu fan de Mei Lanfang, le grand maître de l'opéra de Pékin. Mais il a surtout observé le petit peuple de Chine dans son quotidien.
Édaillé et nourri par la grande voix, Michaux vit heureusement en Chine. Il note dans son journal « En voyage, je lisais, observais, étudiais, réfléchissais, méditais. Sans fatigue, dans le climat le plus dur, avec une grande paix, en harmonie avec tout. Sous bras sensible et perspicace, le poète a vu des choses que nous regardons tous les jours sans le voir. Je cite deux exemples. Depuis longtemps, la Grande Muraille est considérée comme une cristallisation de la sagesse chinoise. Elle nourrit par excellence notre fierté. Au sens propre, c'est une longue barrière de défense contre les barbares du Nord. Michaux est monté sur la muraille, ayant contemplé, réfléchi et comparé, il dit à haute voix, « Grande muraille, tu es le symbole de la fermeture chinoise. » En quelques minutes, le poète a déniché un autre signifié pour notre grande muraille. Vient ensuite la leçon de Saul.
C'est à Pékin que j'ai compris le Saul. Pas le pleureur, le saule à peine incliné, arbre chinois par excellence. Le saule a quelque chose d'évasif, son feuillage est impalpable. Son mouvement ressemble à un confluent de courants. Il y en a plus qu'on en voit, qu'il en montre. L'arbre le moins ostentatoire. Et toujours frissonnant, il n'a pas l'air en lui-même, ni attaché, mais toujours voguant, nageant pour se maintenir sur place dans le vent, comme le poisson dans le courant de la rivière. Petit à petit, le saule vous forme. Chaque matin, vous donne sa leçon. Et un repos fait de vibrations vous saisit. Si bien que pour finir, on ne peut plus ouvrir la fenêtre sans avoir envie de pleurer.
Par le saule, Michaux réussit à dégager un état d'âme des Chinois. Dordu et dorduré, barle d'Iranie. Sous la haute pression, une grande sagesse consiste à s'évader en gardant l'équilibre intérieur. Évasion à caractère d'oïste. Il s'agit aussi de la lutte permanente menée par Michaux dans son espace du détente.
Et à propos de Lao Tzu, que disait Michaux ?
À propos de Lao Tzu, le poète a formulé plusieurs jugements pertinents et originaux, qui sont pour nous des éclairages des valeurs.
Lao Tzu est un homme qui sait. Il touche le fond, il parle le langage de l'évidence. Rien n'approche de son style. Il vous lance un gros caillou et puis il s'en va. Après, il vous lance encore un caillou, puis il repart. Tous ces cailloux, quoique très durs, sont des fruits. Mais naturellement, le vieux sage bourru ne va pas les peler pour vous.
C'est-à-dire que malgré son langage de l'évidence, ses messages ne sont pas compris automatiquement. Il faut faire des efforts pour les comprendre.
Oui, à en juger dans son ensemble, le taoïsme retient Michaux par ses cultes du petit, de la faiblesse, de l'effacement, du dénuement, de la féminité et du silence au service de la grandeur, de la force, de la richesse, de la lumière et de la plénitude. Et par le non-agir, le caractère propre à Lao Tzu apparaîtront comme l'arrière-fond dans de nombreux poèmes de Michaux. On voit partout de rapprochements issus soit d'influence taoïste, soit d'initiative personnelle. Écoutons un moment la symphonie exécutée par les deux sages.
Et là, si vous permettez, je propose que vous lisiez les citations de Lao Tzu et moi, celle de Michaud.
Bravo. Lao Tzu, le mur, synonyme de la mort.
Michaud, qu'est-ce qui est pire que d'être achevé, adulte, achevé, mort, nuance d'un même état, on a jeté ses atouts.
Ce qu'il y a de plus tendre au monde gagne à la longueur sur ce qu'il y a de plus solide. Le vide pénètre ce qui n'a pas de vide.
Le solide, le dur, le construit est troublé par le léger, l'impalpable.
Le vide, la naissance du monde. Magnifier l'infime et le vide, valoriser le moindre.
Rien, seulement rien, rien s'élève du naufrage plus grand qu'un temple plus pur qu'un dieu.
Percevoir ce qui est petit, illumination et la grandeur.
Dans le dénuement est conféré l'aigu, le plane, le grand, le grandiose, l'agilité, l'unicité, l'étendue, l'énormité, la libéralité.
S'attacher à ce qui est faible, la force.
Celui qui est fort, lui manquant d'être faible, est faible, mais le faible s'étend sans limite. Michaud a publié en 1933 « Un barbare en Asie » dans lequel il décrit ce qu'il observe lors de ses voyages en Inde, en Chine et au Japon et note sur un ton plutôt bienveillant les différences culturelles existant entre ces populations et celles d'Europe occidentale et ce que les Européens pourraient apprendre de ces populations.
Bienveillant est un bon mot. De retour à Paris, il en éprouve une forte nostalgie.
Le Tao, en Chine, est simple comme tout. C'est l'évidence, mais ici à Paris, ça ne rend pas, pas assez du moins.
Et Michaud ne cesse de s'acheminer vers cet univers harmonieux. En 1934, année qui suit immédiatement un barbare en Asie, paraît vers la sérénité. Poème qui marque une étape importante dans la vie spirituelle de Michaud. Dans ce merveilleux texte d'inspiration extrême orientale, l'auteur nous parle de son entrevue avec la mère de sagesse.
Sans être sorti, le monde lui est familier. Il connaît la mer est constamment sous lui. Une mer sans eau, mais non sans étendue. Il connaît bien les rivières. Il les traverse constamment, sans eau, mais non sans langueur, mais non sans torrent soudain.
Alors, que veulent dire ces vers et qu'est-ce que le texte de Michaud a-t-il de Orient ?
Lao Tzu avait dit « Je suis vague comme la mer ». L'attaque du poème est aussi citée de Tao Te Ching, chapitre 47. Y est illustrée la notion du Tao sous forme de mer sans eau, non pas sans étendue, d'un grand arbre, sans cellulose, mais bien ferme. Ces images paradoxales illustrent à merveille la nature du Tao qui est fait de présence au cœur de l'absence, où le visible dans l'invisible et l'invisible dans le visible. Dès le début, Lao Tzu explique.
Le Tao qu'on peut définir n'est pas le véritable Tao. Le nom dont on peut nommer n'est pas le véritable nom.
Plus tard, il précise.
Le regardant, on ne le voit pas, on le nomme invisible. L'écoutant, on ne l'entend pas, on le nomme inaudible. Le touchant, on ne le sent pas. On le nomme l'impalpable.
道可道，非常道；名可名，非常名。C'est la phrase la plus connue du Tao Te Ching. Même le chinois lambda, qui n'a jamais lu le livre, connaît cette phrase. Et cela fait penser à « Quand l'homme réfléchit, Dieu rigole ».
Oui, le Tao est perçu comme une unité foncière, indifférenciée, où se résolvent toutes les contradictions et toutes les distinctions de l'expérience et de la pensée humaine. Il est à définir plutôt par négation. Pour l'évoquer, Lao-tzu recourt aussi à des métaphores et symboles. Un bol que le liquide ne comble pas, à l'eau, qui est l'image de la faiblesse et de l'effacement, mais qui est en même temps celle de la puissance et de l'affirmation. À la mer, symbole à la fois de passivité et d'activité créatrice. À la maison, dont la fonction dépend du vide des fenêtres et des portes. Enfin, à celle du char.
30 rayons convergent au noyau, mais c'est le vide médian qui confère à la voiture sa fonction.
Michaud poursuit sa marche vers la sérénité.
S'il abat des bouleaux, c'est comme s'il n'abattait rien, mais les bouleaux sont là, par terre.
Nous en venons au fameux principe de non-agir qui constitue la règle de conduite pour celui qui veut vivre en harmonie avec les dents. Le non-agir n'est pas l'absence d'action. C'est au fond une espèce d'activité spontanée et inépuisable. C'est agir par le non-agir. Lao-tzu explique. Le Tao reste dans l'état de non-agir et il n'est rien qui ne fasse. René Guénon éclaire ainsi ce principe.
Le non-agir n'est point l'inertie. Il est au contraire la plénitude de l'activité. Mais c'est une activité transcendante et tout intérieure, non manifestée, en union avec le principe, donc au-delà de toute distinction et de toutes les apparences.
Travailler par inaction, à inaction, tout est possible. À notre Michaud. Ce principe a contribué à l'élaboration de sa poétique du vide. Je cite un de ses entretiens avec Berthelet.
Je ne sais pas faire de poèmes. Ne me considère pas comme un poète, ne trouve pas particulièrement de la poésie dans les poèmes et ne suis pas le premier à le dire. La poésie, qu'elle soit transport, invention ou musique, est toujours un impondérable qui peut se trouver dans n'importe quel genre. Soudain, élargissement du monde. Sa sensibilité peut être plus forte dans un tableau, une photographie, une cabane. Ce qui irrite et gêne dans le poème, c'est le narcissisme, le quiétisme de cul-de-sac et l'attendrissement assommant sur ses propres sentiments. Je finis par le pire, le côté délibéré. Or, la poésie est un cadeau de la nature, une grâce, pas un travail.
Alors dans ce sens, le poète n'est rien qu'un transcripteur ou un intermédiaire. Et il faut savoir s'effacer pour comprendre le message.
Oui, vous avez raison. Parce que viser à une fin, c'est un propre à gagner l'univers, avait dit Lao-tzu, auquel répond Michaud à la fin de ses entretiens. La seule ambition de faire un poème suffit à le tuer. Renoncer à l'ambition artificielle de faire le bohème, c'est pour activer la spontanéité, pour mieux parvenir à l'essence. Le cite Michaud. Annihiler son être et son action, et l'univers vient à vous. Ayant renoncé à tout, je me retrouvais. Bien entendu, le non-agir dans l'écriture ne signifie point l'absence de l'élaboration. En revanche, l'œuvre de Lhotse, comme celle de Michaud, sont nées d'une longue et ingénieuse organisation. Ce qui compte, c'est d'accorder une attention privilégiée au mouvement le plus pur et spontané du corps et de l'esprit. Loin des artifices, Michaud peut mieux donner libre cours à son rythme et mouvement intérieur, à son angoisse comme à sa haine, à sa tendresse comme à sa brutalité, à ses turbulences comme à ses sérénités. Il finit par devenir un des grands poètes de la littérature française. En effet, vers la sérénité ne marque que le premier pas dans la démarche vers la sagesse taoïste. Il s'agit plutôt d'une entrevue, encore loin de la rencontre fructueuse, car, je cite, « le grand arbre, sans cellulose, mais bien ferme, mûrit en lui un fruit amer, amer souvent, doux rarement. » Et Michaud poursuit ses efforts. Il cherche et recherche durant 25 ans. La quête de Michaud porte enfin ses fruits délicieux après dans de détours. Enfin, au bout du vide désertique, lié à l'angoisse, à la terreur et à la mort, surgit dans sa plénitude l'univers des dents. Dès lors, un grand renversement s'opère dans l'œuvre du poète. Ce n'est plus l'image du petit, de la faiblesse, mais l'ampleur et la grandeur. Ce n'est plus la chute qu'il hantait et le précipitait, mais l'ascension.
Je gagne le haut, plateau. Plateau toujours plus haut, plateau. Encore plus haut, plateau.
Ce ne sont plus les ténèbres qui n'ont englouti, mais l'abondance des lumières.
Une lumière, quelle lumière! J'habite la lumière.
Émerveillé, Michaud acclame de bonheur.
Dans une autre vie, dans une autre vue, dans un autre vide, une main immaculée montrerait la voie pure comme le ciel est bleu, bleu sans angoisse. Main d'azur annulant la main tantrique. C'est la voix, sûrement, je m'en remets à elle.
Trottet observe avec une remarquable pertinence. Par-delà un écart de plus de 20 siècles, il est parvenu à renouer avec la voix antique chinoise, retrouvant et redécouvrant une à une en lui les lumineuses évidences qui résident à la racine de l'être. En parcourant l'ensemble de ses œuvres, nous découvrons que Michaud a heureusement bénéficié de deux espèces de vie. Aux Indes, il découvre la magie qui est un art magique du vide. Elle pourvoit l'homme et le poète d'une nouvelle façon de se débarrasser de l'inutile approvisionnement pour unifier l'être et accéder à l'âme de tout. Dans des différentes formes artistiques chinoises, Michaud a tiré une leçon du vide esthétique. La concavité intérieure dans la peinture, le peu de syntaxe dans la langue qui laisse place à la poésie, le magnétisme fait du désir de sentir l'absente dans le théâtre peuvent aider l'écrivain à produire des œuvres de richesse infinie et de grande plénitude. Dans l'expression de Roland Barthes, le vide est un signe générateur, haut-parlant, un signe sur-nourrissant. Pour terminer, je dirais, parmi les écrivains français, Michaud comprend le mieux Lhotse. Il est le plus taoïste dans la littérature française du XXe siècle. Le Tao Te Ching nous permet de mieux éclairer et de situer le poète inclassable.
Et presque 90 ans après le voyage de Henri Michaux en Chine, en 2020, le public chinois a pu pour la toute première fois admirer de près les œuvres de l'artiste. Une cinquantaine de ses peintures et poèmes ont été exposés de septembre à octobre de cette année à Power Station of Art, le musée d'art contemporain de Shanghai.